fait du bien, ça. On a ri un peu pendant la pause. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la visite du prof Sylvain Dancause. Comment qu'il va, le prof?
Ça va quand même pas si mal, compte tenu des nombreuses nouvelles en éducation qui sont parfois positives, puis parfois qui nous irritent un peu, ou en bon québécois, nous mettent le feu au derrière.
En parlant de ta présence ce matin à l'émission, juste avant la pause, là, je mentionnais qu'il y a des profs des syndicats qui accusent justement Québec de vouloir museler les membres du personnel scolaire avec le nouveau code d'éthique. Il y a même la chronique de
Richard
Martineau dans le journal. Le titre, prof, virgule, fermez vos gueules. Tu te situes où et t'en penses quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ce code d'éthique-là?
Ouais, ben c'est pas toujours facile à suivre. Même moi, à un moment donné, cette semaine, quand je lisais les différentes nouvelles, puis j'essayais de me démêler en lisant les documents qui émanent du ministère ou de d'autres sources. T'sais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps en éducation. T'as la laïcité qui a fait beaucoup parler, puis Bernard Drainville qui a un projet de loi actuellement sur le renforcement de la laïcité. Ça a fait jaser beaucoup, puis aussi ça a fait réagir le syndicat. Puis en même temps, puis c'est ça qui est un peu mêlant, c'est qu'il y avait le projet de loi, faut pas que je me trompe, 47. Ce projet de loi-là date quand même un petit peu, là, et c'est Bernard Drainville qui l'avait amené. C'était sur le renforcement de la sécurité des élèves. Parce que si on se rappelle bien, depuis quelques années, il y avait eu quelques problèmes. On avait entendu parler d'inconduite sexuelle, que ce soit par des coachs d'équipes sportives, scolaires ou autres. Puis Bernard Drainville disait que ça a pas de bon sens. Il y a des gens qui se promènent de CSS, de centre de service scolaire, qui changent d'école, puis les dossiers s'égarent, puis ça a pas de bon sens. Puis il avait tout à fait raison. Donc, il avait dit, bien, compte tenu des événements qui se sont passés, il faut renforcer tout ça, la sécurité des élèves. Puis dans cette lignée-là, il y avait le code d'éthique. Mm-hmm. Ce qui est un peu mêlant, c'est que le code d'éthique sort là, un peu en même temps que la loi, sa laïcité. Ouais. Fait qu'il y en a des fois qu'on entremêle les dossiers.
C'est mêlant.
Puis c'est un bon prétexte aussi. Je veux dire, le timing est bon. Même si c'est la loi sur le renforcement de la sécurité des élèves, le timing est bon de sortir un code d'éthique en même temps que tu jases de laïcité. T'sais. Tout ça s'imbrique un peu. Puis quand un projet de loi, c'est toujours beau. T'sais, les titres, généralement, sont bien faits, là, surtout depuis 2018. Tu vois, loi...
Tu parles-tu de la CAQ là, depuis 2018? Là? Je sais pas de...
Oui, depuis 2018, il y a eu beaucoup de projets de loi. Ça roule en éducation, il y a eu beaucoup de projets de loi.
Attention, il y a un code d'éthique.
C'est vrai, je m'excuse. Ouais, je veux pas te mettre dans le trouble. T'es-tu dans le trouble en passant à nous parler en radio aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ce nouveau code d'éthique-là?
Ben, pour le moment, non, mais si je suis dans le trouble, je viendrai vous le dire.
OK, parfait. On ira défendre ta cause.
Ouais. Exactement.
On connaît un avocat, le Mike Metal, il va se faire un plaisir.
Ouais, c'est ça, exactement. Il va s'occuper de moi. Ben, j'en étais où, moi, là, avec ces niaiseries-là?
T'en étais à dire, là, c'est mêlant, laïcité, l'éthique, ben, c'est normal. Mais là, en même temps, tout ça provient de Bedford, là, aussi, là, la laïcité renforcée.
Ben, c'est ça, on parlait, tu sais, le titre est beau, « Renforcer la sécurité des élèves ». Puis c'est parfait, il n'y a personne qui peut être contre ça. Là, je veux dire, à moins d'être un parfait imbécile, tu veux renforcer la sécurité des élèves, un grand oui majuscule.
Oui.
Là, après ça, c'est quand tu vas lire les petits caractères. C'est pour ça que je disais que les projets de loi depuis 2018, il y a toujours le titre qui est très beau, puis tu dis, bien, on ne peut pas être contre ça. Là, je veux dire, tout à fait d'accord avec l'idée. Mais après ça, c'est comme un contrat. Hein? Tu vas lire le petit caractère dans le bas, puis là, une petite surprise que tu n'avais pas vu venir. Comme là, il y a une petite surprise qu'on n'avait pas vu venir, c'est le fameux code d'éthique. Bon, on peut se poser la question pourquoi. Il y a déjà toutes les écoles privées puis les centres de services scolaires ont déjà des codes d'éthique. Fait que, venir en rajouter un autre, pourquoi? Puis c'est là que le diable est dans les détails. Tu vois que le code d'éthique, et c'est très clair, est prescrit par le ministre. Ça veut dire que les écoles privées et les centres de services scolaires n'ont pas le droit de modifier le code d'éthique.
Okay.
Ils peuvent le rendre plus sévère, mais ils ne peuvent pas aller en bas de ce qui est prescrit par le ministère.
Pas allégé.
Ouais. Et là, je reviens en arrière parce que le ministre, et là, je ne me souviens plus quel numéro de loi, mais un des premiers gestes de Bernard Drainville, c'est de se donner les pouvoirs ultimes en éducation. Ma mémoire, fais-tu défaut ou j'ai raison?
T'as une excellente mémoire, Jeff. Ça, c'est le projet de loi 23.
Ah, merci.
Encore un beau titre. Le projet de loi sur l'Institut national d'excellence en éducation.
Et voilà, on ne peut pas être contre ça.
On ne peut pas être contre l'excellence, mais on ne peut pas être contre un institut national qui va venir guider les bonnes pratiques au Québec. Encore une fois, si tu lis les petits caractères. Il y avait un autre bout où là, c'était ben, Bernard Drainville, le ministre de l'Éducation, quel qu'il soit, c'est un peu ça qui est inquiétant, c'est de dire, ben, il y a le pouvoir de vie ou de mort sur les directions générales des centres de services scolaires. Donc, si ça ne fait pas son affaire, il les enlève, il les met dehors ou il en nomme des nouveaux. Ça ne donne pas beaucoup le goût au directeur général de sortir sur la place publique quand tu sais que ton boss a le pouvoir, puis tu es assis sur un siège éjectable, puis c'est lui qui décide si tu restes ou si tu t'en vas. C'est pas ton conseil d'administration, c'est le ministre qui décide. Puis là, après ça, comme tu viens de dire, ben là, quand tu mets un code d'éthique, là, maintenant, c'est pour les employés, parce qu'une fois qu'on a géré les directeurs généraux, après ça, c'est, ben, il est où le problème? Où est-ce que je pourrais fermer la trappe de certaines personnes? C'est correct d'avoir, encore une fois, c'est correct d'avoir un code d'éthique. Est-ce que je peux faire n'importe quoi comme enseignant sur les réseaux sociaux? Est-ce que je peux faire n'importe quoi dans l'école? Ben non. Je veux dire, il n'y a personne, encore une fois. Puis, comme je disais, les codes d'éthique existent déjà dans les institutions. Mais là, c'est de dire, OK, il est prescrit par le ministre. Moi, je suis prêt à donner les meilleures intentions du monde à M. Drainville. Mais après ça, ben, admettons que M. Drainville, ça va super bien jusqu'à la fin de son mandat. Après ça, ben, ça peut être un autre ministre de l'Éducation de la CAQ qui arrive ou ça pourrait être un autre ministre d'un autre parti qui arrive. Est-ce que, étant donné que le code d'éthique est prescrit par le ministre, est-ce qu'il pourrait avoir deux fils qui se touchent? Puis là, à un moment donné, on resserre la vis encore un peu.
Parce que là, l'image... Parce que, tu sais, ça dit l'image de l'école, mais c'est large, l'image de l'école.
Ben, l'image de l'école, c'est excessivement large. Puis tu vois, il y a des mots qui sont utilisés, des mots comme « partenaire du centre service scolaire ». Qui sont les partenaires? C'est large, ça aussi, là, partenaires. Hein. Autrement dit, tu n'as pas vraiment le droit de t'avancer trop sur le centre de service scolaire. Et ses partenaires. Donc là, on parle du ministère de l'Éducation. On parle, faites le tour de tous les partenaires d'un centre de service scolaire. Il y en a quand même une trollée. Fait que là, c'est ça. Puis comme je te dis, c'est prescrit par le ministre. Fait qu'on va savoir quelqu'un un jour qui va avoir une bulle au cerveau puis qui va dire, ouais, vous savez, non, là, je pense que c'est interdit de. Puis on rentre un peu en contradiction. Puis là, on va revenir sur Bedford. S'il n'y a pas de lanceur d'alerte, tu sais, tu dis, je veux renforcer la sécurité des élèves, mais en même temps, comme je vais reprendre l'expression de Richard Martineau qu'il y avait ce matin dans le journal, en même temps, ferme ta gueule, ben là, on est comme un peu en contradiction. Il y a comme quelque chose qui ne marche pas là, au niveau de la logique puis de la cohérence.
Mais j'allais te demander, dans les détails, prof, là, du code d'éthique, tu te sens-tu menotté dans la job que tu as à faire pour le bien de l'école?
Non.
OK.
Mais peut-être que, dans ma job de tous les jours, non. Parce que, tu sais, t'es dans une classe, tu travailles avec des élèves, t'es entre les cours, tu jases avec eux autres. Puis le but, toujours, c'est d'amener les élèves à réussir, quelle que soit la définition de la réussite, qu'elle soit scolaire ou sociale, peu importe. Mais t'es aide, tu sais. Après ça, si tu vois des aberrations ou si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, c'est sûr que moi, si je vois ça, je ne vais pas sortir sur les réseaux sociaux pour nommer des gens. Ça, on s'entend tous que ça n'a aucun sens. Je vais aller voir mon boss, je vais parler avec mes collègues, puis là, on va essayer de trouver une solution. Mais des fois, il y a des situations, je vais dire, plus systémiques. Je vais nommer un exemple à tout hasard. Tantôt, vous aviez M. Roberge. Bon, l'immigration. Donc, on reçoit des élèves en francisation ou des immigrants. Puis on reçoit aussi beaucoup de nouveaux profs qui arrivent. Puis là, il y en a qui sont excellents, il y en a qui ont un peu plus de difficultés. Bon, puis il y en a qui sont pleins de bonne volonté, d'autres qui sont là juste pour la paye, puis font ça en attendant. Tu sais, on voit toutes sortes de situations. Puis là, maintenant, quand c'est systémique, est-ce que le système a un problème, puis c'est à qui d'agir? Je pense que mon directeur d'école n'a pas ce pouvoir-là. Bien, CSS, OK, mais les ressources humaines, il ne se passe pas grand-chose. Bien, après ça, qu'est-ce qu'il me reste? Bien, il me reste soit à fournir l'information à un journaliste. Puis, comme tu vois souvent dans les médias, les profs n'ont pas voulu ou les intervenants que nous avons rencontrés n'ont pas voulu donner leur nom ou nom fictif par peur de représailles, ce qui arrive régulièrement. Tu as de la difficulté à avoir un nom sur une citation, à part quelques personnes. Puis, il n'y en a pas tant que ça. Puis, il y a plus que 100 000 profs au Québec. Tu iras voir dans les journaux depuis une dizaine d'années les noms qui sortent puis qui osent donner le nom. Tu vas faire le tour assez vite. Il y en a 10-15 à peu près sur 100 000 quelques. Fait que c'est sûr que ça te donne pas le goût de parler ben. Moi, je suis peut-être un contre-exemple parce que j'ai une grande gueule.
Mais on aime ça. On l'apprécie.
Puis, tu sais, moi, quand je lis ça, puis j'ai déjà des gens qui m'ont écrit hier, puis j'avais parlé de ça avec Jeff hier soir. T'sais, déjà, il y a des gens qui m'ont écrit hier, puis d'un peu partout au Québec, là, en passant, là, mon réseau est plus grand que la région de Québec, puis ils me disent, il y a déjà des profs qui ont été rencontrés. Il y a déjà des profs qui se sont fait dire, il y a un nouveau code d'éthique qui vient de sortir, tiens-toi tranquille si tu tiens à ta job.
T'as-tu eu un tiens-toi tranquille?
J'en ai jamais eu. Okay. Fait que j'irai pas dire. Puis si le jour que j'en ai un, je te le promets, je vais venir te le dire ici au micro. Ça me dérangera pas. Parce que pour moi, c'est un non-sens. Je veux dire, tant que. Puis encore une fois, c'est une question de jugement. Moi, c'est ça qui m'énerve dans ce genre de carcan-là. C'est que tu prends les gens pour des imbéciles. Puis il y en a des imbéciles. Je comprends. Mais je veux dire, ça reste généralement une minorité. Gère cette minorité-là. Il y a un service de ressources humaines dans un centre de service scolaire. Puis c'est ça qui s'est passé à Bedford. Hein? On ne l'a pas géré. On parle de, une dizaine de profs qu'on parlait.
Oh, oui.
Puis au centre de service scolaire, des profs, il y en a quelques milliers.
Ouais.
Ça reste, c'est somme toute un petit problème à régler qu'on n'a pas voulu régler pour plusieurs raisons. Fait qu'à un moment donné, ben moi, je pense qu'il faut continuer à s'ouvrir la trappe puis de le faire de façon polie, de le faire de façon constructive. Puis quand on voit des non-sens, puis on en voit de temps en temps, ben il faut le dire. Puis quand les parents en voient, ben à ce moment-là, ben oui, vous pouvez adresser le problème à votre école. Mais quand vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens puis que ça dépasse le cadre scolaire, ben à ce moment-là, il faut aller au protecteur de l'élève.
Tu as nommé tantôt l'Institut national d'excellence en éducation qui n'existe pas encore tout à fait. Là, je voyais que la création, c'était prévu pour avril, puis là, le travail va commencer dans les prochains mois. Puis là, on fait des similitudes, et je sais pas à quel point c'est encourageant, mais avec Santé Québec, avec un Top Gun qui va arriver, puis là, on va prendre des décisions pour le... mais c'est quand même le ministre qui va garder le gros pouvoir là-dedans. Puis est-ce qu'on le voit positivement chez les profs, cet Institut national d'excellence en éducation-là, qui doit arriver bientôt?
Bien, ça a fait couler beaucoup d'encre, surtout chez les universitaires, je dirais, parce que bon, il y avait aussi le centre de transfert en réussite éducative qui voyait ses subventions coupées. En tout cas, il y a plusieurs détails là-dedans. L'idée en tant que telle est une bonne idée, je trouve, même si elle ne fait pas l'unanimité. Je pense que de se doter d'un Institut national d'excellence en éducation pour guider les bonnes pratiques, c'est une excellente chose. Ce qui était un peu contradictoire dans la loi, puis tu viens un peu de le mentionner en me posant la question, c'est que c'est M. Drainville ou le ministre de l'Éducation, quel qu'il soit, qui va avoir les coutées franches pour décider ce qui fait son affaire ou non.
De et pas le Top Gun qu'on va payer 200 000.
Bien, le Top Gun qu'on va payer 200 000, lui, va diriger l'Institut national d'excellence en éducation. Mais après ça, les mandats, ça se peut que le ministre dise « Voici le mandat, fais-moi de la recherche là-dessus ou sors-moi des pratiques sur tel sujet. » S'il y a des sujets que ça ne tente pas trop d'avoir un avis... Ben, peut-être qu'il va dire « je le veux pas, l'avis ». Ou peut-être que l'avis va arriver, je vais le demander, puis ensuite je vais le tabletter, parce que l'Institut n'aura pas le pouvoir décisionnel. C'est un institut consultatif. Fait que tout dépendamment de la bonne foi de la personne qui sera là...
Il va en tirer, la personne va pouvoir en tirer ce qu'elle veut en tirer.
Ben, c'était un peu ça qu'on reprochait au projet de loi, c'est qu'il y avait un peu trop de pouvoir entre les mains du ministre de l'Éducation. Puis je le répète, là, quel qu'il soit, là, nommer n'importe quel parti, nommer n'importe quel ministre, ça reste un non-sens de centraliser autant de pouvoir entre les mains de quelqu'un. Parce que tant que la personne, puis M. Drainville, là, je suis certain qu'il n'est pas mal intentionné, là, j'en suis certain, malgré tous ses défauts, il y a des qualités aussi. Mm-hmm. Puis je pense pas qu'il veuille du mal, on va dire ça comme
ça. Du mal à l'éducation.
Entre guillemets. Mais on peut avoir quelqu'un, à un moment donné, que les deux fils se touchent, là, puis qui décide, avec tous les pouvoirs, que ben, c'est comme ça que ça va se passer dans les centres scolaires. Le code d'éthique va devenir ça. Vous savez, dans les cours de sciences, on pourrait peut-être réformer une partie du cours, parce que là, la théorie créationniste, il me semble que c'est une bonne théorie à apporter. Tu sais, à un moment donné, là... On est à risque. Le terrain est toujours un peu glissant. Quand tu concentres les pouvoirs dans les mains d'une seule personne, tout dépendamment de qui est là, ça peut très bien aller. Puis là, tu te dis, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais à un moment donné, ça peut chirer. Puis là, quand ça commence à chirer, tu te dis, comment ça se fait qu'il y a autant de pouvoir, lui-là ou elle-là? Ben, on l'a laissé aller, là. Puis ça s'est construit tranquillement, pas vite. Puis on construit depuis 2018, on n'a jamais autant centralisé. M. Roberge avait commencé, malgré le fait qu'il avait dit qu'il allait décentraliser son projet de loi gouvernance scolaire, un peu l'effet inverse. Je ne sais pas si c'était volontaire ou non, parce que ça n'allait pas avec son discours disait exactement « je vais décentraliser », puis ça a centralisé les choses, sa loi sur la gouvernance scolaire et la création des centres de services scolaires. Mais M. Drainville, c'est clair, là, je veux dire, lui, on ne peut pas avoir de doute sur le fait qu'il centralise beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une approche top-down.
Je veux y aller rapidement sur le prochain sujet parce que je sais que Red, je veux te parler des voyages scolaires, mais plus de 100 universitaires qui vont faire une demande d'enquête formelle au protecteur national de l'élève par rapport à la qualification des enseignants. Ça aussi, c'est un pouvoir que le ministre Drainville s'est donné de dire « Hey, formez-en rapidement parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. » Et là, c'est ça qu'on décrit du côté de ces 100 universitaires-là.
Ouais, c'est une lettre ouverte qui est sortie ce matin. Vous pouvez la lire dans le Journal de Québec puis dans tous les quotidiens du réseau Coop, là, donc ici Le Soleil, par exemple. En fait, je trouve l'idée intéressante par rapport à est-ce que ça a force de loi? Non, mais on lève un flag, un drapeau pour dire « Bien, écoutez, on a descendu les exigences. La raison, c'est toujours la même, c'est pour combler la pénurie. Mais est-ce que de descendre les exigences, c'est la meilleure façon de contrer une pénurie? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer dans le pied à moyen puis à long terme? » Puis là, ben, on lève le flag en disant « Bien, ça serait le fun que le protecteur national de l'élève fasse une enquête et nous arrive avec un avis ou un rapport qui va nous dire « Est-ce que les élèves, de par le contexte actuel, sont lésés dans leurs apprentissages et sont lésés dans leur réussite scolaire? Est-ce que la situation est grave à ce point-là? Et je crois que la question est très légitime. Puis, on parlait de droit de, ou de devoir de loyauté tantôt que le code d'éthique. Tu sais, il n'y a personne qui viendra ici au micro pour vous parler, mais dans toutes les écoles du Québec, il y a des mentors, des gens qui suivent, des nouveaux enseignants qui nous arrivent. Il y en a des excellents. Il y en a qui ont beaucoup de potentiel, qui sont là pour les bonnes raisons. On va se le dire, il y en a des mauvais, il y en a qui n'ont pas d'affaires là. Puis les mentors le voient et travaillent avec ces gens-là en insertion professionnelle à tous les jours. Ça serait le fun qu'ils puissent peut-être en parler ou écrire ou dire des choses sur ça. Puis je pense qu'il y en aurait long à dire sur le baisse des standards ou la baisse des exigences pour les nouveaux, les nouvelles enseignantes. Comme je dis, je ne lance pas la pierre à tout le monde. Il y en a qui sont vraiment excellents, qui sont à leur place, qui ont trouvé leur X. Puis c'est super, puis c'est beau de voir ça. Puis on a des bons jeunes, des beaux jeunes, des gens un peu plus vieux qui décident de venir essayer ça. Puis comme je dis, pour les bonnes raisons. Mais il y en a d'autres que, tu sais, c'est lourd. C'est lourd, puis ils n'ont pas d'affaires là.
Dans le fond, en terminant pour les voyages scolaires, dans le fond, je voulais ton opinion là-dessus. Ça fait énormément jaser. On en a parlé ce matin un petit peu plus tôt. Les parents en parlent, les jeunes en parlent peut-être un peu moins, mais en parlent. Les profs en parlent. Je parle ici, évidemment, des voyages scolaires aux États-Unis. Ouais. On y va-tu? On annule-tu? On va-tu ailleurs? T'en penses quoi, toi, en tant que prof et parent?
Ben, tu vois, comme parent, mon jeune s'en va à Boston au mois de mai. Le voyage, ça a été organisé septembre, octobre, novembre, je ne me rappelle pas. Les paiements ont été faits, c'est pas remboursable. À ce moment-là, est-ce qu'on annule un voyage pour l'ensemble d'un groupe? Ben, je pense pas.
Non, on est
d'accord. Que s'il y a des voyages qui voulaient s'organiser un peu plus tard dans l'année, que les sommes ne sont pas retenues, à ce moment-là, oui, je pense qu'une réunion avec les parents, un vote, bon, puis on décide tout ça ensemble. Mais là, quand c'était engrangé, puis les jeunes, je pense qu'ils veulent y aller quand même. Il n'y a pas, en tout cas, à moins de preuve du contraire, il n'y a pas de danger pour la vie d'un élève ou des accompagnateurs. Tu vois, moi, on a des groupes, nous, qui sont allés au Vermont faire du ski au mois de mars. Ça s'est super bien passé, même qu'ils n'ont jamais eu un accueil aussi chaleureux. Tu vas me dire, si c'est au Vermont, c'est proche, c'est un État démocrate. Bon, peut-être qu'il y a d'autres explications, mais les gens s'excusaient. Ils disaient, hey, c'est le fun que vous soyez là, merci de venir. Allez-vous revenir l'an prochain? On espère que oui, puis la réponse, ben, on ne le sait pas, on verra, parce que là, c'est sûr que la question va se poser pour l'an prochain. Est-ce qu'on voyage au Canada? Est-ce qu'on voyage outre-mer? Quel genre d'activité étudiante on organise? La question va se poser, puis c'est école par école, puis ça va se décider comme ça. Mais c'est dur d'annuler un voyage. Je sais qu'il y a une école à Québec qui arrive de Washington. Ça s'est bien passé. Okay. Ils ont été un peu impressionnés par les militaires autour de certains sites. Tu vois qu'il y a une certaine tension à différents endroits à Washington. Puis on se protège un peu. Puis, mais ça, bon, tu vois quelque chose que tu n'es pas habitué de voir. Puis je pense que ça t'apprend aussi en étant là. Je sais qu'il y a des cégeps aussi qui sont allés dans la région de Boston. Donc, moi, je pense que pour cette année, ben c'est ça. Faut apprendre quelque chose aussi de ça. On en reste dans un milieu éducatif, même si on trouve que c'est pas une bonne idée d'aller aux États-Unis. Il reste qu'une fois que c'est payé, puis qu'on sait qu'on va y aller, puis qu'on peut pas revenir. Ben là, après ça, qu'est-ce qu'on en retire?
Ouais.
Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça avec les jeunes? Puis de quoi on parle? Puis on peut réinvestir tout ça à l'école. Puis comme parents, on peut réinvestir tout ça aussi avec nos enfants, puis parler de la situation actuelle, parler de nos valeurs, puis pourquoi on irait, pourquoi on n'irait pas. Puis après ça,
je
pense que ça fait des discussions très intéressantes, enrichissantes et éducatives.
Tellement d'accord avec toi, prof. Prof Sylvain Dancause, notre chroniqueur en éducation. Nous, on est vraiment contents que tu aies une grande gueule.
Ça dépend à qui, mes enfants, ma blonde, pas tout le temps.
Puis si jamais ils viennent à te baïonner, dis-nous-le.
Nous, il va passer nous voir.
Ouais,
il l'a promis, je l'ai noté.
Hey, t'attachera après la porte du studio avec la grève de la faim.
Merci pour ça, le prof.
Ça m'a fait plaisir, les gars.
Salut. On s'en parle bientôt. La toune s'appelle It's Sal. C'est The Fortune Cookie Club. Si vous vous dites, attends, ça me dit de quoi ce tune-là? Ben oui, c'est une reprise d'un collectif français qui s'appelle Thérapie Taxi.